Pour bien comprendre la nature du problème, c'est que nous avons deux types de sources pour aborder cette période cruciale début des années 1880. Nous avons des sources écrites, des livres, des textes, des articles, des revues, qui sont des programmes politiques, généralement réformistes. Et bien évidemment, depuis 1880, des générations de chercheurs et de professeurs d'arabe ont fait des thèses savantes sur la pensée politique d'un tel, et ainsi de suite. Et puis à côté, nous avons un vaste corpus de sources diplomatiques où les Français, les Anglais, les Allemands, les Russes, les Autrichiens disent « Attention, tel texte, il a été publié par un tel, il a été payé par tant, etc. » Donc on a d'un côté des textes de très haut niveau, de très haute moralité en quelque sorte, et de l'autre côté, une littérature qui ne voit dans ces textes que des manœuvres politiciennes d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. Et ça explique toutes les controverses historiographiques sur ce sujet. En particulier, il y avait un célèbre historien britannique d'origine irakienne qui est décédé il y a une trentaine d'années maintenant, qui s'appelait Eli Kedouri, et qui a écrit plusieurs livres où il dénonçait cette littérature comme une littérature commerciale d'aventuriers et pas du tout comme celle de haute pensée politique. Alors, la question reste ouverte. En fait, évidemment, il faut bien toujours penser que les intellectuels ont besoin d'avoir des patrons pour les payer et inversement, les patrons ont besoin d'intellectuels pour exprimer leurs pensées. Et que de toute façon, ce n'est pas parce qu'un texte est émergé dans un contexte politique particulier qu'il ne prend pas une autre valeur quand il est répété, republié, quelques décennies après, ayant perdu son contexte d'origine. Alors, pour la suite, il faut bien se mettre aussi dans le contexte de 1880, contexte mondial qui est essentiel. 1880, c'est une année tournante, enfin, au début des années 1880. D'abord, j'ai dit tout à l'heure que c'était le début de l'âge de l'impérialisme. C'est le moment où la pensée raciale devient dominante dans la pensée politique européenne. Et c'est aussi le moment où le principe des nationalités est en train de se transformer. Alors, il faut bien comprendre que ce qu'on appelle le principe des nationalités, qui est apparu en Europe au lendemain de Waterloo, au lendemain de 1815, n'est pas le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui, on le verra, un siècle plus tard, à la sortie de la Première Guerre mondiale. Le principe des nationalités, c'est une tendance au rassemblement territorial de populations qui ont une unité ethnique, en quelque sorte, qui sont divisées en plusieurs entités politiques et que l'on veut réunifier ou unifier en une seule unité politique. Donc les deux exemples célèbres du principe de nationalité, c'est l'unité italienne et l'unité allemande. Et à la fois, évidemment, il y a un puissant courant politique exprimant cette volonté d'unifier les Allemands et les Italiens, mais en même temps, cette unité n'a pu se faire que par la force des armes, aussi bien en Italie qu'en Allemagne. Donc, pour les tenants du principe des nationalités, les petits peuples n'ont pas le droit à ça. Au contraire, ils sont destinés à se dissoudre dans les grandes unités, d'où ces textes qui nous paraissent aujourd'hui scandaleux, par exemple de Marx ou d'Engels, qui dénoncent les petits peuples slaves qui veulent maintenir leur existence alors qu'ils doivent fusionner avec l'ensemble allemand. Donc, il y a des textes très hostiles, par exemple, aux Tchèques, à l'époque, on les appelle les Bohémiens, parce qu'un nationalisme tchèque n'a pas de sens dans la pensée de cette première partie du XIXe siècle, où le principe de nationalité est pensé comme un principe de rassemblement et non pas un principe de division. Un principe de division, ce serait de couper l'Empire austro-hongrois, austro-hongrois maintenant, en plusieurs unités politiques distinctes, parce qu'il y a plusieurs peuples. Donc, le principe de nationalité n'est pas un séparatisme. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un point essentiel. Le second point, c'est qu'aux alentours de 1870, dans la décennie 1870, on établit de plus en plus une relation entre la nation et la race. Et donc, les penseurs européens divisent l'Europe en plusieurs grands ensembles. Un ensemble nordique et germanique qui regroupe la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Europe du Nord, avec la Scandinavie. Alors, on parle de race germanique, où, par exemple, Lord Salisbury, le grand homme d'État britannique de la fin de l'époque victorienne, parlera des races teutoniques, qui sont les seules à avoir conservé la capacité à être libres. Et ça, il le dit en public, comme Premier ministre de Sa Majesté la Reine Victoria. Alors, comme vous l'avez vu dans le texte de Torcy tout à l'heure, on parle aussi d'un sous-ensemble des races anglo-saxonnes qui regroupent les Anglais avec les Anglais du reste du monde, c'est-à-dire ceux d'Australie, de Nouvelle-Zélande, etc. C'est ces nouvelles Europes qui sont en train d'émerger, mais aussi avec les anglophones des États-Unis. Et donc, c'est le début des discours. Un problème, c'est qu'aujourd'hui, les Anglais ont oublié qu'ils croyaient à la race anglo-saxonne, ce qui fait que les seuls qui parlent encore des anglo-saxons, ce sont les Français. Donc, à chaque fois que nous, les Français, nous parlons d'anglo-saxons, les Britanniques sont interloqués et pensent que c'est une invention française, alors que c'est tout simplement le discours habituel des Britanniques de la fin du XIXe siècle. Alors, on a aussi une Europe du Sud qui est latine, donc c'est la France, l'Espagne, le Portugal et l'Italie. Donc ça, ce sont les races latines, avec curieusement un morceau de race latine perdu dans les Balkans, qui ce qu'on appellera bientôt la Roumanie. Et puis, on a les races slaves. Alors, les penseurs européens font une identification entre ces races avec des religions. Ce qui est absurde, mais ce n'est pas grave. Donc, les slaves sont spontanément orthodoxes, les latins sont spontanément catholiques, et les germains, les anglo-saxons, sont spontanément orthodoxes. Et ensuite, on va transplanter ça en islam pour dire que les arabes sont spontanément sunnites et les iraniens spontanément chiites. Alors, le problème, c'est qu'on a toujours des exceptions qui sont importantes. Vous avez un paquet de slaves qui sont catholiques, comme les polonais, une partie des tchèques, les slovènes, les croates, etc. Et vous avez des germains qui sont catholiques aussi. Bon, mais ce n'est pas grave, ils se sont trompés. Pas ceux qui analysent, mais les populations en question. C'est eux qui ont fait l'erreur. Et c'est pour ça qu'un slave catholique, c'est quelque part un traître à la race slave. C'est d'ailleurs ce qu'on pense à Moscou, d'ailleurs, enfin à Saint-Pétersbourg, à l'époque. Alors, ce qui s'est passé dans l'affaire balkanique, c'est une explosion en vol, si j'ose dire, de l'orthodoxie. Alors aujourd'hui, les orthodoxes, les théoriciens orthodoxes, vous expliqueront, l'Église orthodoxe est spontanément nationale, elle se crée dans chacun des États, c'est donc la spécificité de l'orthodoxie qui est d'être toujours dans un cadre d'un État-nation, contrairement au catholicisme qui se veut universel et qui n'accepte pas l'État-nation. Bon, tout ça, évidemment, c'est de la foutaise. C'est le résultat, mais pas la cause. Fondamentalement, ce qui s'était passé, c'est que le patriarcat de Constantinople, le patriarcat œcuménique de Constantinople, avait perdu le contact avec les patriarcats orientaux au 7e siècle, puisqu'il y avait la conquête musulmane. Et donc les patriarcats de Jérusalem, d'Antioche et d'Alexandrie avaient perdu le contact avec Constantinople. Ça, c'est un fait fondamental. Bon, Alexandrie, ça ne comptait pas, puisque de toute façon, ils étaient devenus hérétiques par ailleurs, puisque l'église copte était considérée comme hérétique. Mais au XVIe siècle, quand les Ottomans font la conquête des provinces arabes, ils amènent dans leur fourgon les Arméniens et les Grecs. L'arrivée des conquêtes arabes, des conquêtes ottomanes, c'est ce que j'ai appelé la byzantinisation de l'Empire ottoman. C'est-à-dire que le patriarcat de Constantinople a repris le contrôle sur l'ensemble des orthodoxes de l'espace ottoman. Aussi bien d'un côté sur les orthodoxes des Balkans que de l'autre côté sur les orthodoxes des pays arabes. Et une fraction des orthodoxes balkaniques et arabes ont refusé cette prise de contrôle par les Grecs, parce que c'était des Grecs à Constantinople, et s'en passer à l'Église catholique, ce qu'on appelle les églises uniates ou grecques catholiques. Grec étant pas au sens, enfin, grec au sens de Roum, c'est-à-dire de byzantin. On dit Roum catholique, pas orthodoxe, enfin pas grec yunaniyin. C'est Roum. D'où le fait paradoxal que la conquête ottomane avait restauré la puissance du patriarcat orthodoxe de Constantinople à un point qu'elle n'avait jamais eu depuis l'époque de l'empereur Justinien au VIe siècle, puisque d'un seul, les orthodoxes de Constantinople recontrôlaient les Balkans et tout le Proche-Orient, sauf l'Égypte. Il n'y avait que très assez peu d'orthodoxes en Égypte. Alors, les Arméniens, c'était un peu la même chose, dans la mesure où les Arméniens sont aussi arrivés dans les fourgons ottomans, ce qui explique en particulier leur très grande importance à Jérusalem, puisque au XVIIe et XVIIIe siècle, les Arméniens tiennent les finances de l'Empire ottoman, et les grands banquiers ottomans financent la présence arménienne à Jérusalem, d'où l'importance des grands monastères arméniens à Jérusalem, le quartier arménien de la ville sainte, etc., etc. Ceci pour montrer simplement aussi au passage que les rapports entre chrétiens et musulmans dans l'Empire ottoman sont beaucoup plus compliqués que on le pense dans une logique de simple domination opposant des dominants et des dominés. Le patriarcat de Constantinople est un instrument du pouvoir ottoman, mais en même temps il est pleinement gagnant parce qu'il a restauré sa puissance qu'il avait perdue à la fin de l'époque byzantine. Mais ensuite, à partir de la révolte grecque, l'orthodoxie se pulvérise dans les Balkans. Puisqu'à chaque fois qu'un peuple balkanique accède à des formes d'autonomie prononcées, sa première exigence, c'est de couper la relation avec le patriarcat orthodoxe de Constantinople. Ainsi, après la révolte grecque, dès 1831, la Grèce indépendante se dote de sa propre hiérarchie ecclésiastique et coupe la relation avec Constantinople, parce que rester sous la domination du patriarche de Constantinople, ce serait rester sous une domination de type ottomane. Et puis ensuite, les peuples slaves des Balkans, comme les Serbes, les Bulgares les Roumains, enfin les Roumains ne sont pas slaves, les peuples orthodoxes des Balkans, chacun à leur tour, dès qu'ils deviennent autonomes, ils coupent les relations avec le patriarcat de Constantinople. C'est-à-dire donc qu'à fur et à mesure que l'Empire ottoman perd de territoire, le patriarcat orthodoxe de Constantinople perd du pouvoir. Et dans les provinces arabes, c'est la même chose, parce que tout le haut clergé orthodoxe arabe est grec, est tenu par des Grecs ethniques, et le bas clergé est arabe, et les fidèles sont arabes. Et dès la fin du XIXe siècle, les Arabes refusent la domination des Grecs sur, le sur les patriarcats de Constantinople et d'Antioche et de Jérusalem. Donc les bagarres sont absolument terribles. À certains moments, les nominations ecclésiastiques ne peuvent plus se faire, etc. Ça va aussi jouer un rôle important dans la genèse du nationalisme arabe, parce que ce sont les Arabes orthodoxes qui se révoltent au nom de leur arabité contre la domination grecque et pas contre la domination turque. Ce qui vous expliquera ensuite, dans l'étape suivante de l'histoire, qu'énormément de leaders nationalistes arabes viendront des orthodoxes arabes. Parce qu'ils ont été formés à une culture arabe d'opposition, mais pas à l'opposition aux Ottomans, à l'opposition aux Grecs. Et dans cette fin du XIXe siècle, ces orthodoxes arabes vont obtenir le soutien de la Russie. Parce que si la Russie orthodoxe avait soutenu, dans un premier temps, la révolte grecque au début du XIXe siècle, elle soutient maintenant les Slaves. Et donc, les Russes s'opposent assez fondamentalement à l'Église proprement grecque, qu'elle soit d'Antioche, enfin qu'elle soit de l'Église nationale grecque ou de Constantinople. D'où le soutien que les missions consulaires russes apportent aux orthodoxes arabes contre la domination grecque, parce que s'ils étaient restés sous domination des Grecs, ils ne pourraient pas être sous influence russe. D'où, jusqu'à aujourd'hui, l'image extrêmement positive que les Russes ont dans la population chrétienne orthodoxe des pays arabes, qu'ils ont été quelque part considérés comme la Sainte Russie, comme libératrice des orthodoxes arabes. Alors, tout ça, si vous émettez les peuples qui sont dispersés en unité raciale, vous créez des mouvements collectifs qui, dans les années 1870-1880, se rassemblaient sous le terme « pan quelque chose ». Alors, on a évidemment le mouvement dit « pan-germaniste », qui essaierait de réunir tous les Germains dans une unité politique. Alors, on ne sait pas laquelle, d'ailleurs. Est-ce que ce sont simplement les Allemands de l'Autriche-Hongrie qu'on rajouterait à la petite Allemagne de 1871 ? Ou on pourrait penser à d'autres populations allemandes, jusqu'aux Allemands de la Volga, voire même de considérer comme allemands les peuples scandinaves et autres. C'est ce qu'on appelle le pangermanisme. Bon, donc on sait très bien que le pangermanisme est l'un des courants qui donneront naissance au XXe siècle au nazisme. Enfin, disons que le nazisme sera l'héritier de ce courant pangermaniste de la fin du XIXe siècle. Vous avez le panslavisme qui cherche à réunir ou en tout cas à unifier dans l'action politique de tous les peuples slaves, si possible orthodoxes. Les autres ne sont pas très intéressants pour les panslavistes, puisque des slaves catholiques, il y a quelque chose qui ne va pas. Et encore pire que les slaves catholiques, ce sont les slaves musulmans qui existent aussi, ce qu'on appelle aujourd'hui les musulmans bosniaques, qui sont slaves, et les Pomaks en Bulgarie. Mais bon, comme on dit, ces peuples, ils trahissent l'analyse, donc c'est pas sympathique. Et face, on parle aussi de pan-latinisme, parce que, par exemple, Napoléon III avait poussé à la coopération politique affirmée des États latins. Hein, ça avait amené, entre autres, ce qu'on avait appelé l'Union latine, si ça dit quelque chose à quelqu'un ici, qui était une union monétaire entre l'Italie, la France et l'Espagne, qui faisait que les trois puissances latines émettaient des monnaies or à la même teneur métallique. Autrement dit, les pièces françaises, italiennes et espagnoles étaient interchangeables parce qu'elles avaient la même valeur métallique. Même si ça s'appelait des pesetas ou des lires, elles étaient interchangeables. C'est le premier essai d'union monétaire en Europe, mais c'était fondé sur des métaux précieux. On a le panaméricanisme en Amérique, l'union de peuples américains, c'était surtout déjà plutôt une tentative d'hégémonie nord-américaine sur le reste de l'Amérique, ça c'est un autre problème. Et donc en islam, bah, comme on l'a dit, avec toutes les choses qui sont en train de se passer, avec le canal de Suez, avec le télégraphe, avec le bateau à vapeur, bah, les communications dans l'ensemble du monde musulman s'élaboraient. Et depuis très tôt, les Ottomans avaient compris que pour essayer de négocier avec les Anglais, il fallait dire on est influent sur les musulmans des Indes. Et donc à chaque fois que les Ottomans étaient en mauvaise passe, ils essayaient d'envoyer quelques émissaires en Inde, en disant aux musulmans indiens de s'agiter un peu pour montrer qu'ils tenaient à l'existence de l'Empire ottoman et donc que les Anglais devraient être gentils. Il faut rappeler dans cette période que les Anglais restent toujours traumatisés par la grande révolte de 1857, qui a d'abord été une révolte musulmane plus qu'une révolte hindoue. Et donc le cauchemar d'une révolte musulmane en Inde était un cauchemar permanent pour la Grande-Bretagne. Et donc, les réformistes dont je parlais tout à l'heure, cette littérature réformiste de la fin des années 1870-1879, appelait à la solidarité des peuples musulmans. Alors, comme tout le monde parlait déjà de pangermanisme, de panslavisme, etc., progressivement, dans l'année 1880, va apparaître dans la correspondance diplomatique le terme de panislamisme. D'autant plus que le sultan est calife. Enfin, le sultan de Constantinople est calife. Ce qui veut dire que s'il a perdu tout pouvoir temporel dans les Balkans, semi-indépendant, il ne reste pas moins qu'il est l'autorité spirituelle pour les musulmans sunnites balkaniques ou pour les musulmans sunnites de l'Empire russe, ou éventuellement pour les musulmans sunnites de l'Empire colonial français et de l'Empire colonial britannique. Donc, en tant que calife, le sultan conservait une place importante dans les relations internationales, sans qu'on sache très bien de quoi il s'agit. Parce que ça ne correspondait pas au mode d'emploi habituel des califes. Sur les califes, on a tous les textes médiévaux, le calife, il fait ceci, il fait cela. Bon, ça marche. Mais là, les Européens disent au sultan, bah, voyez, vous avez perdu le pouvoir temporel, mais vous avez conservé le pouvoir spirituel. Mais il n'est pas très sûr que les Ottomans comprennent ce que ça voulait dire, cette distinction entre temporel et spirituel, que les diplomates européens essayaient de lui expliquer gentiment, etc. Parce que ça n'a rien de musulman, cette distinction entre le temporel et le spirituel. Alors, exactement, la première fois que le mot panislamiste apparaît dans la correspondance diplomatique française, c'est en 1879. Et on y voit une volonté de retour de la politique ottomane vers l'Afrique du Nord après la perte des Balkans. S'y ajoute le fait que les Français voient partout des complots musulmans. Ah, parce qu'en Afrique du Nord, il y a de grandes confréries soufis Ce sont elles qui se sont opposées à la colonisation française avec l'émir Abdelkader. Bon, en Algérie, elles se sont inclinées, elles sont devenues l'instrument du pouvoir colonial français. Mais au début des années 1820, est née une nouvelle confrérie musulmane en Afrique du Nord, qu'on appelle la Senoussia, les Senoussites, qui s'est établie à partir des territoires ottomans d'Afrique du Nord, c'est-à-dire la Libye actuelle. Et les Senoussis ont entrepris d'encadrer les populations nomades de ce qu'on appellerait aujourd'hui le Sahara libyen. Et ils se sont arrivés jusqu'à l'actuel Tchad. Et donc cette puissante confrérie, qui certes reconnaît l'autorité ottomane, mais qui est pratiquement indépendante de l'Empire ottoman, inquiète considérablement les Français qui sont maintenant maîtres, enfin qui sont en Algérie, et on soupçonne aussi en Tunisie des confréries d'agir. Donc il y a une obsession du complot chez les coloniaux français. Une fois pour toutes, la théorie du complot, elle est d'abord véhiculée par le système colonial européen avant d'être inoculée aux populations indigènes. Quand vous ouvrez les archives coloniales, vous trouvez des complots absolument partout, soit des indigènes, soit des autres. Les archives françaises sont remplies de complots britanniques et les archives britanniques sont remplies de complots français. Donc il ne faut pas les prendre au pied de la lettre, évidemment, sauf savoir que le complotisme est quelque chose d'assez universel. Là, en même temps, vous avez eu, après 1878, vous avez eu l'affaire d'Afghan. Les Anglo-Indiens étaient obsédés par une descente russe qui aurait traversé l'Afghanistan. Et donc, ils avaient exigé de l'émir d'Afghanistan l'autorisation de créer une mission permanente britannique à Kaboul. Mais les Russes auraient réclamé la même chose par parité. Donc, l'émir avait refusé aux uns et aux autres la création. Et donc, en 1879, les Anglais envahissent l'Afghanistan pour la seconde fois. La première fois, en 1841, ils avaient reçu une raclée mémorable. Et donc, c'est la seconde guerre anglo-afghane. Ils arrivent sans problème jusqu'à Kaboul. Ils installent leur mission diplomatique, etc. Ils envoient un proconsul et puis, manque de chance, les Afghans se soulèvent et massacrent la présence britannique à Kaboul. Alors bon, les Anglais reviennent, massacrent copieusement de l'Afghan pour faire comprendre que c'est pas gentil ce qu'ils ont fait. Et puis, ils disent décidément que les Afghans sont insupportables et ils évacuent le pays. Ils n'installent pas leur mission permanente. Cela dit, quand même, au passage, ils ont intégré à l'Empire des Indes, enfin l'Empire de l'Inde, au Raj, le col de Khyber, la Khyber Pass, qui donne le contrôle à l'Afghanistan. Donc territorialement, les Anglais ont fait un gain important, puisqu'ils ont pris la fameuse donc, Khyber Pass, tous ceux qui ont lu Kipling et les autres, c'est combien cette passe de Khyber, enfin le col de Khyber, est un élément profond de la mythologie politique et littéraire anglo-saxonne avant qu'on la retrouve dans les guerres d'Afghanistan de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Donc, il y a eu cette affaire et ensuite, on installe un émir d'Afghanistan en 1883, ça calme le jeu. Peu d'années après, les Anglais et les Russes vont se retrouver de nouveau face à face. Et là, on a passé pendant quelques semaines au bord de la guerre mondiale à cause du Pamir afghan, où les Russes et les Anglais se faisaient face à face. Puis quand même, il y a des gens raisonnables à Saint-Pétersbourg et à Londres, on a dit on ne va quand même pas faire la guerre pour des bleds pourris où il n'y a aucun intérêt. Et donc, ils ont arrivé à une négociation qui conduira à la définition territoriale de l'Afghanistan telle que nous la connaissons, l'Afghanistan devenant justement un état tampon entre les Russes l'Angleterre. Là, il faut aussi définir le Balochistan, c'est la fameuse ligne Mortimer-Durand dans les années 1890. Et si vous regardez la carte, les Anglais ont créé un corridor afghan qui va jusqu'en Chine. Ça sert exclusivement à une seule chose, à ce que les Russes et les Anglais ne soient pas sur la même frontière. Bon, ensuite, un siècle et demi après, 120 ans après, ça reste un problème pour les habitants locaux. Ça, c'est un autre sujet. Alors, tout ça, il faut rappeler aussi, mais ça n'a rien à voir avec le sujet de l'islam, mais que les Anglais font aussi une guerre en 1879 en Afrique du Sud contre les Zoulous. Ils commencent par recevoir une raclée par les Zoulous, ce qui nous vaudra la mort du prince impérial français, le fils de Napoléon III. Et puis ensuite, bon, les Zoulous seront massacrés, l'ordre rétabli. Mais enfin, cette succession de guerres qui est menée par le gouvernement conservateur explique aussi la victoire électorale de Gladstone, puisque le peuple britannique rejette cette politique de guerre coloniale permanente menée par Disraeli après le congrès de Berlin. Et donc on commence à parler de pan-islamisme. Et là, nous allons maintenant retrouver quelqu'un qui va nous accompagner pratiquement dans toutes les cours de cette année, dont j'ai largement parlé l'année dernière, c'est Wilfrid Blunt, l'explorateur britannique. Non, je n'ai pas la fiche, je vous emmènerai après. Alors Blunt, vous le rappelez, c'est un ancien diplomate britannique s'est lancé dans le... avec son épouse Lady Anne Blunt, qui est la petite-fille de Lord Byron, la fille d'Ada, la célèbre mathématicienne. Ada, c'était la fille de Lord Byron, qui était la première femme mathématicienne en Europe au XIXe siècle. Et Lady Anne est donc la petite-fille de Lord Byron, la compagne de Blunt. Et les deux, le couple est allé sillonner la péninsule arabique pour acheter des chevaux pur sang et les ramener en Angleterre. Et donc les Blount ont fait un élevage de pur sang arabe qu'ils allaient acheter dans le désert pour les acclimater à la Grande-Bretagne. Mais en même temps, Blount avait appris l'arabe, s'était passionné pour les causes islamiques, et Blount, puisque nous sommes entrés dans l'âge de l'impérialisme, va devenir dans l'histoire le premier anti-impérialiste, le premier intellectuel anti-impérialiste de l'histoire européenne. Mais c'est juste autour de 1880 que Blount va faire cette mutation. En effet, Blount, quand il est revenu en Angleterre, a pris des cours d'arabe auprès de Louis Sabounji, donc le Savonnier, qui est un curé défroqué et qui est donc le professeur d'arabe de Blount. Et puis ensuite, Sabounji a créé son journal arabe qui est publié en Grande-Bretagne et en France et est diffusé dans l'Empire ottoman. Et il a plaidé pour une alliance anglo-ottomane dans la guerre de 1877-78. Et Blount l'accuse d'avoir été payé par le Khedive Ismail pour développer la théorie d'un califat arabe. Le califat ottoman est illégitime puisqu'il n'est pas tenu par un descendant du prophète, ou en tout cas de la tribu du prophète, un Quraychite. Et donc il faut supprimer le califat ottoman et créer un vrai califat arabe. Ça, c'est la thèse de Sabounji. C'est très important parce qu'on pense que c'est Ismaïl qui se venge d'Abdulhamid en payant Sabounji pour faire ses textes, selon la grille que je vous ai expliquée tout à l'heure. Mais en même temps, Blount va reprendre on le verra, ce thème, dans sa propre littérature, dans un livre fondamental que Blum va publier dans quelques mois, dont je reparlerai, qui est « The Future of Islam », qui aura aussi une grande importance sur la compréhension européenne de l'islam. Et donc, en tout cas, c'est Sabounji qui lance le premier en Europe la campagne dénonçant l'illégitimité du califat ottoman et la nécessité d'un califat arabe. Ce qui fait qu'en 1880, en juillet 1880, Blount est reçu, parce qu'il appartient quand même à la meilleure société, par Gladstone, et il explique à Gladstone que le califat ottoman est illégitime et qu'on pourrait penser éventuellement pour la politique britannique à avoir un calife arabe à la place du calife. Et il explique ça aussi aux gens du Foreign Office, mais il est reçu assez froidement. Cela dit, Gladstone fait diffuser une note au cabinet britannique sur la notion d'un califat arabe. C'est au moment où l'application du traité de Berlin est difficile parce que les Albanais refusent de céder des territoires aux Monténégrins, ce qui implique que l'Europe doit faire une démonstration navale pour forcer les Albanais à capituler et à céder du terrain au Monténégro. Et c'est là où se joue un certain nombre de choses. Quand on analyse la séquence temporelle, face à ces textes qui commencent à apparaître en Europe dénonçant l'illégitimité du califat, Abdul Hamid réplique en disant « Moi, je suis le calife de l'islam ». Et c'est le moment où l'idée califale devient l'instrument politique numéro un de la politique ottomane. Le résultat, c'est qu'en fait, c'est qu'une réaction d'Abdul Hamid contre les complots, parce qu'il voit des complots partout lui aussi, qui le vise, est réinterprétée par la politique européenne comme une nouvelle démonstration de pan-islamisme. Et là, on a quelque chose de tout à fait caractéristique qu'on peut appeler être la création d'un danger ou l'invention d'un danger. En effet, je vous le rappelle, au Congrès de Berlin, les Anglais, pour faire avaler l'annexion de Chypre, avaient proposé aux Français d'aller s'emparer de la Tunisie. La phrase est célèbre, « Carthage est aux barbares, pensez-y ». Donc ça veut dire aller prendre la Tunisie. L'Allemagne y avait poussé aussi parce que l'Allemagne y voyait deux raisons essentielles pour pousser la France à s'emparer de la Tunisie. La première, c'est que ça les éloignait de l'Alsace-Lorraine. Et la seconde, c'est que ça les débrouillait avec les Italiens. Ce qui n'était pas faux, et donc c'était dans l'intérêt de l'Allemagne de Bismarck que les Français s'emparent de la Tunisie. Et c'est donc le message qu'à Berlin, les Allemands et les Britanniques avaient transmis aux Français. Or, Berlin, c'est 1878-1879, c'est le passage à la République des Républicains. Vous vous rappelez, la France est gouvernée à partir de 1871 par une majorité royaliste qui se résigne en 1875 à voter une constitution républicaine, mais par défaut. Et en 1878, les Républicains arrivent au pouvoir, définitivement, ce qui va conduire à la démission de MacMahon et l'élection de Jules Grévy comme président de la République. Donc nous entrons dans le cycle historique, enfin dans la période qu'on appelle la République des Républicains, par rapport à la période précédente, qui était une république sans républicains, enfin qui n'était pas gouvernée par des républicains. Le problème de la République des Républicains, c'est la question de la ligne bleue des Vosges. C'est là, cette ligne, où il y a l'Alsace, Lorraine, d'où vient le danger allemand et où sont les terres que la France veut récupérer. Alors, la ligne bleue des Vosges se trouve dans le testament politique de Gilles Ferry, qui est un Lorrain, mais au-delà, l'expression est tout à fait courante dans la littérature française de l'époque, pas la ligne bleue, mais par exemple, on trouve chez Juliette Adorme, dont je reparlerai, « Prenez garde à la trouée des Vosges, la ligne des Vosges est un thème récurrent dans la littérature politique française de la fin des années 1870. » Et face à ceux qui tiennent sur la ligne bleue des Vosges, il y a les tenants de l'expansion coloniale de la France. Et le débat va être résumé par une phrase célèbre du poète nationaliste français Paul Déroulède. « 20 servantes ne peuvent remplacer deux filles. » 20 servantes, c'est les nouvelles colonies que la France va acquérir. Et les deux filles perdues, c'est l'Alsace et la Lorraine. Et donc, c'est tout le débat du début des années 1880. Or, les deux grands chefs de la fraction majoritaire du mouvement républicain français, c'est ce qu'on appelle les opportunistes, Gambetta et Jules Ferry, sont les partisans de la reprise de l'expansion coloniale qui implique une politique de modération par rapport à l'Allemagne. Tandis que l'aile gauche du mouvement républicain, ce qu'on appelle les radicaux, qui sont dirigés à l'époque par Clemenceau, Il n'y a plus de socialistes à l'époque. Les socialistes, ils ont été éliminés par la répression de la Commune et donc ils sont hors-jeu dans cette période. Donc l'extrême gauche, c'est Clemenceau. Et Clemenceau est contre l'expansion coloniale. Parce que lui aussi, il est sur la ligne bleue des Vosges. Et curieusement, cette extrême gauche républicaine partage la même analyse que la droite monarchiste. Parce que la droite monarchiste, elle est aussi hostile à l'expansion coloniale, toujours parce qu'elle se tient sur la ligne bleue des Vosges. Et donc, si vous voulez, c'est le centre républicain qui est partisan de l'expansion coloniale. Alors, tout ça, ça va être le rôle essentiel de Gambetta, qui est l'homme fort du système politique républicain au ce début de décennie 1890. Alors, sur l'évolution politique de Gambetta, on a un témoignage exceptionnel d'une femme exceptionnelle qui s'appelle Juliette Adam, Juliette Lambert, qui est une écrivaine et qui a épousé M. Adam dans un second mariage, M. Adam étant le financier du Parti républicain en France. Et elle publie cette dame, Juliette Lambert, Juliette Adam, écrit énormément. Elle est la seule femme à tenir une revue littéraire complète, qui est la Nouvelle Revue, dans les années 1880. Elle est donc l'égérie du Parti républicain en France et elle s'oppose à son ami Gambetta parce qu'elle, elle veut la revanche. Elle écrit un livre qui est un classique qui s'appelle « L'abandon de la revanche », qui est la trahison de Gambetta, qui a préféré l'expansion coloniale à la guerre de revanche contre l'Allemagne. Et donc, elle fait dire à Gambetta, dans l'abandon de la revanche, en 1878, « Il faut, me dit-il, avec impatience, tâter d'une politique d'expansion, conquérir ou gagner par d'habile neutralité l'équivalent de ce que nous avons perdu. On verra après. Quant à mon anticléricalisme à l'intérieur, tant mieux s'il est un appoint pour au dehors, mais rassurez-vous, il ne m'aveuglera pas au point de faire courir à la France le risque de perdre le bénéfice de notre action et de nos traditions catholique à l'étranger. C'est l'origine de la fameuse expression de Gambetta, l'anticléricalisme n'est pas un objet d'exportation, un article d'exportation. Ce qui explique pourquoi la République sera laïque à l'intérieur et catholique à l'extérieur. Puisque jusqu'à la fin, la Troisième République financera les œuvres catholiques françaises dans le reste du monde. Et Gambetta explique à Juliette Adam que le prince de Galles, le futur Édouard VII, lui a déjà évoqué la possibilité d'une alliance franco-anglo-russe contre l'Allemagne. Et donc, vous voyez, toujours cette année de 1880, c'est vraiment une répétition générale de tout cela. Et donc, au moment de Berlin, du congrès de Berlin, il y avait eu l'opposition. Les gens de la revanche ne voulaient pas que la France aille à Berlin. Parce qu'ils auraient pris nécessairement à Berlin des positions hostiles à la Russie. Or, ces nationalistes, enfin, les revanchards, ne veulent qu'une seule chose, c'est d'une alliance russe. Seule l'alliance avec la Russie permettra de faire la guerre de revanche à l'Allemagne. Tandis que les coloniaux, eux, sont allés à Berlin. C'est ce qui a d'ailleurs emporté. Comme dit Gambetta, toujours d'après Juliette Adam, il faut le reconnaître, la politique d'expansion gagne du terrain parmi nos amis, les gouvernements démocratiques ont leurs exigences, il faut caser plus de gens. Tous ceux qui se sont dévoués dans les premières luttes ne pouvant occuper le pouvoir, de grands développements d'énergie dans de hautes situations coloniales peuvent devenir nécessaires. L'Algérie ne nous suffit pas. Si à un moment donné, nous ne happons pas notre part de colonie, l'Angleterre, l'Allemagne s'en saisiront. Ça, c'est le grand moteur de l'expansion coloniale, de l'ère des empires des années 1880. On s'empare de territoires pour empêcher les autres de s'en emparer. Ce n'est pas parce qu'ils ont un quelconque intérêt économique. Ça, c'est une absurdité. Parce qu'on va faire la conquête de l'Afrique qui, économiquement, ne rapporte rien et est très coûteuse dans l'état du système économique mondial de la fin du 19e siècle. Si les Français, les Allemands et les Anglais et les Belges font le scramble for Africa, la ruée sur l'Afrique, c'est exclusivement pour empêcher le voisin de s'emparer du morceau avant eux. Ce qui est complètement stupide, mais c'est comme ça que les grands empires coloniaux se sont construits. Depuis la prise d'Alger, en 1830, la politique française avait été de soutenir l'indépendance de la Tunisie, c'est-à-dire d'empêcher tout retour à une autorité directe ottomane, comme l'avaient fait en 1835 les Ottomans, qui avaient repris le contrôle de la Cyrénaïque et de la Tripolitaine, c'est-à-dire de la Libye. Et pour maintenir l'indépendance de la Tunisie, la marine française interdisait systématiquement à la flotte ottomane de s'approcher des rives tunisiennes. Et cette régence de Tunisie, qui était encore théoriquement ottomane, connaissaient les mêmes difficultés de constitution de l'État moderne que le reste de la région musulmane. Les Européens avaient forcé les Tunisiens à accepter une émancipation des non-musulmans, c'est-à-dire les Juifs de Tunisie, puisqu'il n'y avait pas de chrétiens indigènes. Un poids croissant des colonies étrangères européennes, un système fiscal totalement inadéquat, une gestion financière erratique, un coût croissant de l'appareil d'État obéré par des dépenses somptuaires, d'où le recours à l'endettement, donc une situation de banqueroute, donc une mise sous tutelle des finances tunisiennes. Et puisque la France avait eu le feu vert à Berlin, le consul de France à Tunis accélérait la prise de contrôle de l'économie tunisienne par les intérêts français, soit par la dette, soit par les projets industriels, chemin de fer, port, etc. Le problème, c'est que les consuls britanniques et italiens, ils n'étaient pas, enfin l'italien était contre de toute façon, mais le britannique, il n'était pas au courant que son gouvernement avait donné le feu vert aux Français. Donc il s'y opposait. Et on a une situation classique de conflits consulaires en Tunisie, ce que dans la langue diplomatique du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, on appelle la maladie consulaire, la morbus consularis, qui peut se transformer en crise grave de fureur consulaire, la furor consularis, c'est-à-dire une guerre des consulats qui se battent les uns contre les autres et qui cassent les pieds à leurs métropoles respectives, qui sont obligés régulièrement de demander à leurs consuls de se calmer, parce qu'ils n'ont rien à faire de leurs histoires entre consuls qui se bagarrent pour un chemin de fer, une station de métro, enfin, une station de tramway, enfin, tout et n'importe quoi sont ces bagarres de consuls. Londres appelle à l'ordre son consul, mais le consul italien, il continue de faire la guerre au consul de France à Tunis. Gambetta est le chef du parti républicain, mais la Troisième République a pris la décision capitale de ne pas avoir de chef de majorité, ce qui sera tout le problème de la Troisième République jusqu'à la fin de son histoire. Autrement dit, le chef du parti n'est pas le Premier ministre, enfin le président du Conseil, et celui qui devient président du Conseil, c'est Jules Ferry, qui, au début, s'occupe d'abord de son œuvre scolaire, bien connue, les fameuses lois Ferry. Mais ensuite, une fois que les lois Ferry sont passées, au début de 1882, Jules Ferry se lance dans l'expansion coloniale, de 1880, pas début de 1880, soutenu par Gambetta, qui est président de la Chambre. Alors, pour Jules Ferry, dans son texte qu'il écrit l'année suivante, en 1882, de façon anonyme, et qui est le premier manifeste colonial de Jules Ferry, l'abandon de la Tunisie serait le minimum des exigences d'un nouveau genre. À plus forte raison, la France ne devrait-elle pas, d'après eux, se soucier ni de l'Égypte, ni des Grecs, ni de la question d'Orient, ni de la Méditerranée? Elle n'avait qu'à faire du congrès de Berlin. L'idéal, c'est le renoncement diplomatique et la suppression des armées permanentes, un des articles les plus osés des programmes de l'intransigeance. Dans cet ordre d'idées, il n'y a que le premier pas qui coûte, et l'on ne voit pas bien, en somme, à quoi il sert d'être si fort si on est bien résolu à tout laisser faire et à rester chez soi. Et il dit que la France ne peut pas se résigner à être une grande Belgique. Et ensuite sort le fameux argument des débouchés économiques. La concurrence est de plus en plus ardente entre nations européennes pour se disputer ces débouchés lointains, ces stations aux portes de la barbarie, qu'un instinct sûr indique à la vieille Europe comme les têtes de pont de la civilisation et les voies de l'avenir. Les nécessités d'une production industrielle incessamment croissante est tenue de s'accroître sous peine de mort. La recherche des marchés inexplorés, l'avantage si bien défini par Stuart Mill qu'il y a pour les vieux et riches pays de se porter dans les pays neufs des travailleurs ou des capitaux, les tendances si rapidement développées par la vie moderne qui emportent les individus et les peuples hors de chez eux, la science qui met à quelques heures de Londres, de Berlin ou de Paris les extrémités du monde. Donc, Jules Ferry, 1882. Le ministre des Affaires étrangères de Jules Ferry, on va le saluer, on va faire un petit tour sur lui, parce que quand même, d'abord, il est peu connu parmi vous, et ensuite, c'est un professeur du Collège de France. Donc, au 19e siècle, on a eu deux professeurs du Collège de France qui ont été ministres des Affaires étrangères. Au 20e siècle, ça ne s'est pas reproduit. Ça prouve simplement que les personnes cultivées avaient peut-être un rôle plus important sous la Troisième République commençante que sous notre cinquième d'aujourd'hui. Il s'agit de Jules Barthélémy Saint-Hilaire, 1805-1895, dont la carrière parcourt toute la vie intellectuelle et politique française du XIXe siècle. Jeune homme, il a participé à l'effervescence intellectuelle de la fin de la Restauration et il s'est lancé dans l'étude du sanskrit. Et on lui doit surtout l'œuvre monumentale de la traduction intégrale en français d'Aristote, qu'il a commencé en 1837 et qu'il terminera en 1892. Donc, d'abord, comme philosophe et helléniste, Barthélemy Saint-Hilaire est connu. Ce qui lui permet d'obtenir la chaire de philosophie antique au Collège de France en 1838. En 1848, il est secrétaire du gouvernement provisoire, puis député républicain, ce qui lui permet de rétablir le Collège de France qui avait été manqué d'être supprimé par la Seconde République qui voulait le remplacer par une école nationale d'administration. Ben, c'est plus rien, il s'appelait l'ENA. Et l'ENA aurait remplacé le Collège de France, et heureusement que Barthélemy Saint-Hilaire s'y était opposé. Ses collèges reconnaissants l'ont élu administrateur du Collège de France pour service rendu à l'institution, mais en 1852, le coup d'État de Napoléon le prive de son mandat législatif, et puis, comme il refuse de prêter serment à Napoléon III, il est privé de sa chaire du Collège de France. En 1855, il a collaboré avec Lesseps sur le projet de canal de Suez, mais dès 1858, il a démissionné parce qu'il a vu toutes les acrobaties financières qui accompagnaient l'action de Lesseps. Durant sa traversée du désert, donc, il continue à traduire Aristote, mais fait aussi une étude sur les origines du bouddhisme et un livre sur Mahomet et le Coran, précédé d'une introduction sur les devoirs mutuels de la philosophie et de la religion, publié à Paris en 1865. Il y donne une vue plutôt sympathique du prophète. Je cite « Selon moi, la partielle histoire ne peut plus avoir une autre opinion. Désormais, Mahomet lui apparaîtra comme un des hommes les plus extraordinaires et les plus grands qui se soient montrés sur Terre. » Cet homme extraordinaire est évidemment très proche de la célèbre expression de Renan au Collège de France en 1862, « Jésus, cet homme incomparable ». Le livre lui-même n'est pas d'une très grande originalité. Pour Saint-Hilaire, tous les fondateurs de religion, Mahomet est celui dont on connaît mieux le contexte historique. Il est totalement sincère. Sa personnalité est proche de celle de Moïse, à qui on peut le comparer. Son texte correspond à la civilisation du temps qui était relativement barbare dans la péninsule arabique. C'était aussi quelqu'un qui, en quelque sorte, faisait naître la nation arabe, hein, je cite. « Il s'est trouvé, sans le savoir, sans le vouloir, le plus grand homme de guerre de son temps, le politique le plus habile. Il a fondé un empire presque malgré lui. » C'est que tout était prêt dans le monde arabe auquel il s'adressait pour la révolution politique, aussi bien que pour la résurrection morale. Alors certes, l'islam est irrémédiablement inférieur au christianisme, mais les musulmans forment les peuples les plus éclairés de tous les orientaux, dit Saint-Hilaire. La preuve de sa force réside dans la fermeté de foi des musulmans qui refusent toute conversion et rejettent l'incrédulité. Saint-Hilaire est un philosophe spiritualiste, donc il s'oppose à l'athéisme. Et pour Saint-Hilaire, la théologie islamique lui paraît aussi simple qu'irréprochable, alors qu'il déteste ce qu'il considère comme l'anéantissement de soi-même que représente le bouddhisme. Saint-Hilaire utilise dans son livre peu le terme islamisme, qui est l'expression habituelle de son temps. Il suit plutôt l'usage anglo-saxon, qui est de dire « islam », rare dans les textes français du XIXe siècle. Mais il utilise aussi mahométisme. Mahométisme qui est d'ailleurs une traduction d'un terme courant à l'époque dans l'Empire ottoman, puisque l'on parle de la nation de Mahomet, al-Milla Mohammadiyah. Donc, ce n'est pas du tout un occidentalisme dire mahométisme, c'est la reprise, la traduction d'un terme courant dans la langue arabe du XIXe siècle. En 1869, Saint-Hilaire est élu député au corps législatif, puis à l'Assemblée nationale de 1871. Il est le secrétaire général de la présidence de la République sous Thiers et fait partie des sénateurs inamovibles de la Constitution de 1875. Donc, vous voyez, la République des Républicains met quand même des très grands intellectuels au poste de commande ici de ministre des Affaires étrangères, même si évidemment ses adversaires politiques se moquent de cet universitaire perdu dans les méandres de la politique. Et je vais arrêter là, donc la semaine prochaine, nous continuerons sur l'invention d'un danger, le panislamisme. Je vous remercie.